Et la question qu'on vous posait hier était la suivante. Comprenez-vous que les émeutes en France débordent à Bruxelles? Oui ou non? Vous étiez nombreux sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter, pour y répondre. Alors Blaise, sans tarder, quel est le résultat de ce mini-sondage?
Eh bien, les auditeurs sont d'accord sur les trois plateformes. Ils pensent tous que non. Sur Instagram, c'est 82% de non. Sur Twitter, c'est 100% de non. Et sur Facebook, c'est 96% de non. Alors, nous allons demander son avis à notre invité de ce matin, Jean Spinette. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
Vous êtes bourgmestre de Saint-Gilles. Vous avez entendu les résultats à la question qu'on a posée. Alors, bien que le calme soit visiblement revenu à Bruxelles, vous, en tant que bourgmestre de Saint-Gilles, avez-vous compris que les émeutes étaient débordées ici à Bruxelles jeudi soir?
Clairement, il y a eu un phénomène d'entraînement lié aux réseaux sociaux, les mêmes réseaux sociaux que vous évoquez. C'est clair que la plupart des jeunes ont pu voir des images particulièrement choquantes via TikTok qui ont été diffusées avec des blogueurs avec beaucoup, beaucoup de followers. Et donc, on a des très, très jeunes enfants qui ont été très impressionnés par une image qu'ils ont à juste titre considérée comme d'une extrême violence. Et effectivement, ça a soulevé chez ces jeunes un mouvement de colère immaîtrisable. Heureusement, les forces de l'ordre ont pu travailler en amont sur les mêmes réseaux sociaux pour pouvoir aller au-devant de ces jeunes et procéder à des arrestations administratives, ce qui fait qu'on a pu arrêter le phénomène. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que ce sont surtout de très jeunes adolescents qui étaient concernés. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu véritablement une prolongation des émeutes. On peut clairement expliquer qu'il y a eu un débordement très dangereux le jeudi soir et qu'heureusement, nos forces de l'ordre, de manière concentrée en région bruxelloise, entre les différentes zones de police, ont pu juguler le développement de ce phénomène, mais en tombant sur de très jeunes enfants. Donc c'est ça qui est particulièrement questionnant.
Justement, vous parlez des forces de l'ordre, vous et vos collègues bourgmestres de la ville de Bruxelles, c'est une possibilité à laquelle vous vous attendiez à partir de mardi soir où on a vu la situation dégénérer en France?
Évidemment, puisque c'est clair que ce genre de soulèvement, mais on a déjà eu l'occasion de le constater, c'est vrai que même parfois entre Bruxelles et les autres communes, il y a un peu un effet de concurrence un peu enfantin entre les communes et les codes postaux pour voir lequel va gagner en matière de performance. Et clairement, ici, on était groupés et informés avec le bourgmestre de la ville de Bruxelles, qui lui était au dispatching central et qui, avec les différents services d'ordre, avait l'occasion de transmettre l'information et qu'ils ont pu travailler de manière globale. Alors c'est vrai que vendredi soir, ils ont pu, je pense que vendredi ou samedi soir plutôt, ils ont procédé à des arrestations administratives. On est tombé sur des jeunes de 13 ans en possession d'accélérants. Donc on est devant un phénomène qu'on rencontre au Nouvel An aussi. On a des jeunes ados qui utilisent des fusées comme si c'était... On n'est pas dans GTA en fait. Je pense qu'il y a une dépersonnalisation et qu'on a un vrai travail à faire pour que les jeunes en question, et à cet âge-là, soyons clairs, il y a un vrai travail qui doit être fait, qui est encore possible, me semble-t-il, où on doit expliquer que derrière les policiers et les policières, il y a des êtres vivants, que derrière les commerces, il y a des familles qui travaillent, que derrière les voitures, il y a une famille qui doit aller au boulot, et qu'en fait, on n'est pas dans un jeu vidéo, quoi.
Justement, vous l'avez rappelé, ce sont de très jeunes personnes qui ont été interpellées. Paye-t-on les 3 ans après la situation du Covid et le confinement, où au final il y a eu une sorte de fracture sociale à ce moment-là?
J'ai cette conviction. Je ne sais pas si c'est une question de fracture sociale. C'est une question de légitimité. Depuis lors, je me suis remis à lire sur la question de police et la fonction de police et la légitimation de l'autorité. Alain Ehrali a écrit des choses intéressantes sur cette question, sur la légitimité. C'est vrai que le Covid a posé la question de la légitimité. De très nombreux jeunes gens issus de tous les quartiers se sont retrouvés dans le bois de la Cambre en estimant que les règles Covid étaient complètement débiles. Donc, c'est pas seulement des jeunes des quartiers, c'est aussi... les enfants de mes amis, de Saint-Gilles, de Hucle, qui étaient présents en train de faire la révolte contre la cavalerie et la police en ayant l'impression qu'ils défendaient leurs droits et libertés. Parce qu'on est clairement devant une autorité qui est contestée, dont les jeunes ne s'estiment plus reconnus par elle, et donc rentrent dedans comme si c'était un jeu vidéo. Et ça, c'est vrai, quel que soit le milieu, l'origine socio-économique. Et donc, c'est vrai que pour que la police soit respectée et que l'autorité publique soit respectée, il faut qu'on recrée cette légitimité. Et le Covid, avec les règles parfois absurdes qu'on a imposées aux gens, a mis en question ce réflexe de respecter l'autorité. L'autorité, aujourd'hui, un policier qui vous donne une instruction, la plupart des gens vont finir par dire « mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» D'autres vont finir par les insulter. en disant qu'ils s'en fichent. Jamais on n'aurait imaginé ça il y a quelques années.
Pour revenir sur cette période, les policiers aussi, eux non plus, des fois, ne comprenaient pas les règles qu'on leur demandait de faire appliquer. La profession de policier a pris un coup à ce moment-là ?
Moi, je suis convaincu que la profession de policier aujourd'hui, pour recruter dans nos zones de police, où on aimerait bien avoir des gens recrutés à Bruxelles, quelque part aussi issus de notre diversité bruxelloise, et elle est multiple, on a beaucoup de mal à recruter parce qu'effectivement, la fonction de police, comme la fonction d'instituteur, même les maîtres en voie des crises de la vocation nombreuses, mais la fonction d'autorité de police qui, pour d'aucuns, c'était protéger et servir, aujourd'hui, c'est pas aussi évident que ça. Donc, il y a un vrai travail de relégitimation d'un certain nombre de professions. Les profs, les instituts, les infirmiers et les médecins parfois, et aujourd'hui la fonction de police et la fonction d'autorité. Et parfois, pour consoler mes policiers qui sont un peu en difficulté, je leur dis qu'il y a pire qu'eux. Il y a aussi la fonction d'homme ou de femme politique qui aujourd'hui dans la société n'est pas toujours respectée malgré le travail fourni.
Vous parvenez à recruter, vous personnellement à Saint-Gilles, mais autre part à Bruxelles, dans ces métiers-ci ?
Non, c'est un vrai problème. On est vraiment devant un problème où on a des cadres qui ne sont pas pleins. Donc clairement, on pourrait trouver là une source d'emploi pour de nombreux Bruxellois et Bruxelloises, où ils pourraient être fiers d'assurer, de protéger et de servir dans leur quartier et dans les quartiers de la ville. Et donc ce serait juste une très belle pirouette, mais il va falloir, à mon avis, encore quelques années de reconstruction.
Alors revenons maintenant à la situation en France, si vous le voulez bien. Hier en France, les maires ont défilé en soutien à leur collègue Vincent Jeanbrun, qui a vu son domicile attaqué ici à Bruxelles et en Belgique. C'est une possibilité que vous pouvez imaginer ?
Oh ben, on pose beaucoup la question. C'est clair que pour ma famille et mes proches, c'est vrai qu'ils se posent la question. J'ai discuté avec des maires français que je connais. Effectivement, il y a une personnalisation ici à Bruxelles. On est responsable de l'ordre public. On a des zones de police avec des officiers qui doivent prendre des décisions de sécurité et d'autorité. C'est clair que les manifestants ou un certain nombre d'interlocuteurs ont tendance à personnaliser et à vouloir rendre et trouver un responsable à ce qui s'est passé. Et donc, ont des gestes de vengeance ont l'impression d'agir. C'est un phénomène qui est en train de s'étendre. Je pense qu'il est temps de dépersonnaliser la question. C'est pas un maire ou un bourgmestre qui prend une décision. Ce sont des phénomènes très compliqués avec des phénomènes d'entraînement. Et derrière ça se cachent beaucoup de choses. Derrière l'image de nos quartiers, moi je vis dans un quartier super à Saint-Gilles, qui dans les médias intervient souvent, où on dit « oh les jeunes ceci », ben moi je vois des familles, des jeunes, des gens qui s'éclatent tous les jours, des gens qui réussissent à l'UNIF, et on va retenir que le phénomène du dealer du coin qui se fait avoir par le capitalisme de la drogue, on va retenir, mais derrière un arbre qui brûle, on oublie souvent la forêt, et il y a une super forêt avec plein de gens super, et c'est ça qu'il faut mettre en valeur dans nos quartiers. Et donc moi je suis plutôt attaché avec ces gens-là à faire quartier, à faire communauté, et de demander à la police de faire son travail pour ceux qui ne veulent pas participer à cette communauté.
En 2019, Mehdi Bouda a été tué par une voiture de police à Bruxelles au même âge que le jeune Naël, à 17 ans. Y a-t-il un réel problème de violence policière, que ce soit en Belgique ou en France ?
Alors écoutez, on a des phénomènes évidemment qui maintenant sont très visibles. Moi, je vois une réalité plus complexe que celle-là. Je vois des policiers qui sont insultés tout le temps. Je vois des jeunes qui ont le sentiment profond d'un manque de respect total. Et je pense que la question du racisme qu'ils évoquent, c'est pas seulement le racisme au milieu de la police, mais c'est un racisme, ou en tout cas une perception qu'ils ont de leur afrodescendance qui est mal perçue par la société, peut-être encore plus en France qu'en Belgique, où je pense que nous, notre diversité et politique et citoyenne et d'autorité est quand même beaucoup plus présente et qu'on a un travail un peu plus approfondi en matière de cohésion sociale. Mais soyons clairs, les policiers qui doivent intervenir et qui sont dans une course-poursuite avec quelqu'un qui refuse d'obtempérer, bah c'est clair qu'il y a un effet d'entraînement et clairement dans ces épisodes, il y a des accidents qui interviennent. Si la justice peut s'exprimer et montrer qu'il y a eu un comportement inadmissible et du racisme, il faudrait que la justice puisse s'exprimer rapidement. Le problème aujourd'hui, c'est que la justice, comme la police d'ailleurs, n'ont pas suffisamment d'effectifs et de moyens pour pouvoir traduire en justice les gens qui se seraient rendus coupables de quelque chose. Et donc, il y a un flou qui persiste. C'est ça qui est problématique. C'est que la justice prend beaucoup de temps avant de trancher pour savoir s'il y a culpabilité ou pas, examiner les preuves à charge et à décharge et prendre une décision. Et donc, notre problème, c'est que dans toutes ces affaires qui sont intervenues à Bruxelles, où le doute persiste et où des accusations sont faites de part et d'autre, on n'a pas encore de vérité judiciaire ou en tout cas de justice qui a été rendue. Et donc c'est ça qui crée le flou. On a l'impression que de manière systémique, on couvre la police, on ne veut pas balayer devant la porte de la police, on ne veut pas retirer les éléments qui n'ont pas à s'y trouver parce qu'ils ne respectent pas les codes de la vie en société. C'est vraiment un élément essentiel, c'est que la justice soit rendue, qu'on ait un sentiment de légitimité. Alors oui, il y a des phénomènes de poursuite à l'égard de jeunes. Les scooters, c'est un vrai problème. Poursuite un scooter, la plupart des dealers utilisent des scooters. On a vu des images hallucinantes à Londres où la police a le droit de bourrer dans le scooter. On parle de pare-chocage en France, en Belgique. La Belgique n'a pas le droit d'utiliser ce phénomène. Quand vous parlez de Mehdi, c'est un accident malheureux. Le garçon fuit et il s'éclate sur un véhicule qui n'est pas un véhicule de police. Donc c'est dans le cadre d'une course-poursuite que le garçon va mourir horriblement face à une voiture. On est devant le deuil d'une famille qui doit être respectée. On est dans le cadre d'une course-poursuite. Alors c'est clair que les courses-poursuites, c'est embêtant. Est-ce qu'on peut relever la plaque, parler de délit de fuite et sanctionner a posteriori? À froid, il est permis de le dire. Mais quand vous êtes policier et que vous essayez de poursuivre quelqu'un, vous avez des doutes légitimes qu'il commet une infraction, ben vous avez tendance à le poursuivre. Et malheureusement, ça se termine souvent de manière funeste pour l'un des autres, parce que pour le coup, j'ai déjà vu des policiers tomber en moto ou en voiture et avoir un accident aussi. Donc la course-poursuite est un vrai phénomène qui doit sans doute être régulé.
Jean Spinette, vous êtes bourgmestre de Saint-Gilles, vous avez quelque chose à rajouter ?
Je pense qu'il faut apaiser tout ça, et on était avant ces derniers incidents encore à essayer de retisser le dialogue entre la police, les jeunes, les concitoyens, recréer la confiance. Je pense que c'est résolument sur ça qu'on doit travailler. On doit penser à des jeunes, des policiers, des citoyens, des politiciens, et pas les jeunes, les politiciens, les policiers. On doit arrêter de donner des assignations aux policiers méchants, aux politiques inconséquents ou profiteurs, et aux jeunes délinquants. Il y a des jeunes magnifiques, il y a des jeunes moins magnifiques, il y a des policiers extraordinaires, il y a des policiers moins bons, et il faut effectivement faire distinguer le grain de l'ivraie.
Jean Spinette, vous êtes bourgmestre de Saint-Gilles. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Et merci de votre intérêt pour cette question.
Bonne journée.